Chapitre 63. L'hôpital universitaire de la Pitié-Salpêtrière était une ville dans la ville. Un pavillon central, des annexes, en tout une dizaine de bâtiments, dont une grande partie était classée au monument historique. Franck terminait tout juste un nouveau tour de planque, de midi à 16h ce dimanche, à grignoter des chips et des sandwichs, et profitait de son temps libre pour, l'espérait-il, trouver la réponse à la question qui l'obsédait. Faisait-il fausse route en soupçonnant un urgentiste dans l'affaire des disparus? Hormis les roulements devant le 41, avenue de la Porte des Poissonniers, Santucci avait accordé un peu de repos à tout le monde. Et d'une, les administrations et laboratoires étaient fermés, rendant inutile leur présence au 36, et de deux, il avait besoin de toute leur concentration dans ce sous-marin. Le Corse gardait une once d'optimisme. Il se persuadait que le méticuleux allait finir par retourner à son appartement. Mais s'il ne revenait pas, qu'est-ce que cela signifiait? Qu'il avait été averti de l'intervention de la BRI par un habitant du coin? Le même qui avait laissé l'incompréhensible message téléphonique depuis la cabine située au pied de son immeuble? Franck ne pouvait s'empêcher de penser à l'ingéniosité de David Merlin. Finalement, n'avait-il pas réalisé son plus grand tour de magie en s'évanouissant dans la nature, alors qu'il croyait le tenir? Il s'était volatilisé sous leur nez, purement et simplement, comme David Copperfield. Jusqu'à quel point les flics avaient-ils pu contrecarrer les plans du méticuleux en débarquant chez lui? Quand le rhum avait-il réellement planifié de leur fausser compagnie? Après quelques tâtonnements et errances, le policier trouva l'accueil des urgences. Il expliqua qu'il recherchait des renseignements au sujet des déplacements en ambulance et fut orienté vers une unité qui portait le nom de Structure Mobile d'Urgence et de Réanimation, SMUR. Le chef de service, alerté par une infirmière, vint à sa rencontre. Il s'efforça de s'exprimer de la manière la plus claire possible. Dans le cadre d'une enquête qu'il qualifia de routinière, il devait savoir quel personnel avait été affecté à des missions en ambulance à des dates et des adresses bien précises. « Et vous menez une enquête de routine un dimanche ?» questionna son interlocuteur. Le docteur Rotten était tout en verticalité, voûté sous sa blouse, et avait un nez si fin qu'il réajustait en permanence ses lunettes à monture ronde. Le crime comme la maladie ne sait pas ce qu'est un dimanche, malheureusement. Le médecin rendit sa carte tricolore à Charcot et se mit à avancer dans le couloir, incitant le jeune inspecteur à le suivre. « Je veux bien discuter et vous aider, mais je ne vous révélerai rien de confidentiel sur d'éventuels patients sans papier adéquat, » fit-il. « Ne vous inquiétez pas, ce ne sont pas les patients qui m'intéressent. En fait, je me demandais, comment fonctionnez-vous? Est-ce que votre périmètre s'étend à plusieurs arrondissements? 13e, 12e et 14e, par exemple? » « Bien sûr. Nous sommes 18 à nous relayer et nous tournons 24 heures sur 24. Nous disposons de deux unités mobiles hospitalières capables de couvrir tout Paris et pas seulement les arrondissements du Sud. Nos missions sont souvent déclenchées par la régulation du SAMU, le 15. Au total, nous effectuons plus de 2000 interventions par an, ce qui est considérable. » D'ailleurs, vous l'avez sans doute remarqué, les véhicules ne sont pas là. Autre interrogation, et excusez-moi d'avance si elle est triviale, mais est-ce que vous ramenez toutes les personnes que vous prenez en charge à la Salpêtrière? Absolument pas. Vous imaginez aisément que si nous avons une urgence au nord, on ne va pas retraverser toute la ville. Les patients peuvent être traités dans tous les établissements de la région, directement dans le service adapté et en fonction des places disponibles. En général, on se rend au plus près. Donc, pour résumer, on peut solliciter l'une de vos ambulances pour un cas de brûlure grave dans le 12e, cas qu'on soignera ensuite à Saint-Antoine, par exemple. Vous avez compris. Franck sentit la flamme se ranimer. Le médecin l'entraîna dans son bureau, le pria de s'asseoir et alluma l'écran de son ordinateur IBM d'un mouvement de souris. Vous êtes sacrément mieux équipé que la police, constata Charcot. Ces engins arrivent à peine chez nous et d'après ce que j'ai pu en voir, c'est loin d'être du haut de gamme. Il y a encore un tas de données en double ou en triple, car les services ne sont pas encore tout à fait reliés entre eux. Mais ça va un peu mieux qu'avant. Tout ça finira par fonctionner correctement un jour. Beaucoup disent que l'informatique, c'est l'avenir. Il pianota sur son clavier. Donc, vous souhaitez savoir... Franck piocha un papier dans la poche de son blouson et le déplia. Il y a deux choses que j'aimerais que vous vérifiez. La première, c'est si l'un de vos véhicules est intervenu le 6 mai 87 pour une fuite de gaz rue de Julienne dans le 13e. Rotten opéra quelques clics, entra des critères et patienta. Vous parliez de routine, mais je peux connaître les raisons précises qui conduisent un policier de la brigade criminelle jusqu'ici. Je recherche des témoignages. Ça fait des années qu'on traque un individu qui provoque des événements aussi dangereux qu'une fuite de gaz ou un incendie dans des immeubles. Récemment, il y a eu une victime dans le 2e, et on a découvert que notre homme restait sans doute dans le coin après ses méfaits, glissé parmi la foule, et qu'il prenait du plaisir à voir les secours se démener. Je vois. Et donc ça vous intéresserait d'interroger mon personnel? Ceux qui étaient sur place ces jours-là, oui. On a des profils de suspects, des visages qui s'empilent dans des dossiers. Peut-être que ça nous aiderait à avancer. Deux carrés bleutés se dessinèrent sur les verres de lunettes de son interlocuteur lorsque celui-ci orienta le regard vers son écran. Puis plusieurs secondes s'écoulèrent, interminables. « 6 mai 1987, rue de Julienne, voilà je l'ai. » C'était bien nous, en effet. Ils étaient quatre sur le terrain. Notre médecin urgentiste, un infirmier, un ambulancier et un étudiant en médecine. Franck essaya de rester cohérent avec son histoire. Hors de question de réclamer une description physique ou une photo des intervenants. « Je peux avoir leur nom et leurs coordonnées ?»« Alors, Fabrice, l'ambulancier, est encore dans nos murs, mais il est en repos aujourd'hui. Les trois autres, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, ne sont plus dans mon équipe. Pourtant, je n'ai pris mes fonctions ici que l'année dernière. C'est vous dire si ça tourne dans le service. Pour leurs adresses, je vais être obligé de consulter un autre fichier et... » Il se concentra sur ses manipulations, puis redressa la tête. « Je le craignais. Comme ils ne sont plus dans nos effectifs, ils n'apparaissent plus. Il faudrait que je contacte les ressources humaines, mais un dimanche... » Vous pourriez récupérer ça pour moi dès que possible, c'est très important. Ça me ferait gagner un temps précieux. Le médecin acquiesça, lui demanda son numéro de téléphone, Charcot lui donna sa ligne personnelle par souci de discrétion, et le nota sur un post-it qu'il colla sur son écran. Ainsi, je n'oublierai pas. Parfait. Je peux vous importuner encore un peu? Je dispose d'autres informations, mais c'est moins précis sur la date. Il s'agit d'un incendie qui se serait déclaré dans un appartement rue Édouard Robert dans le 12e, fin mars 1988. Rotten sollicita de nouveau son disque dur sans tarder. Tout ce que je sais, compléta Franck, c'est que la victime brûlée a été amenée à Saint-Antoine, mais j'ignore à quel hôpital appartenait l'ambulance qui l'y a conduite. Au pire, si vous ne trouvez rien, j'irai là-bas, mais ça m'éviterait un déplacement si... J'ai ! Le cœur du jeune inspecteur palpita. Un véhicule de la Salpêtrière, envoyé à deux des endroits où avaient eu lieu les kidnappings. Le flic se pencha en avant, tentant de garder son calme. Était-il possible qu'il ait vu juste ? Y avait-il la moindre chance pour qu'il mette un nom sur l'individu qui avait enlevé et sauvagement assassiné trois femmes ? 27 mars 1988, fin d'après-midi, précisa le médecin. Ils étaient trois cette fois, pas d'étudiants. Hormis l'ambulancier, c'était la même équipe que pour l'autre intervention. En général, les duos médecins-infirmiers qui s'entendent bien s'arrangent pour bosser ensemble. Il y avait donc... Rotten attrapa un bloc-notes ainsi qu'un stylo et écrivit tout en révélant les identités de chacun à voix haute. Pascal Herbier, l'ambulancier, Richard Jumon, l'infirmier, et Dominique Tournel, le toubib. Charcot prit le papier d'une main tremblante. Le chef de service remarqua son état de nervosité. « Vous tremblez, un problème ?» Franck se leva fébrile. « Trop de café. Vous m'appelez demain pour les adresses de ces personnes ? N'hésitez pas à laisser un message sur le répondeur si je ne suis pas là. » « J'essaierai, oui. » Franck le remercia et se dirigea vite vers la porte. Mais avant de sortir... Il se retourna et demanda « Un dernier petit truc qui me turlupine. Qui découpe les vêtements des patients en cas de nécessité ? L'infirmier ou le médecin ?» Son interlocuteur fronça les sourcils. « Vous avez de drôles de questions. Les deux sont en mesure de le faire. Dans l'urgence, on ne réfléchit pas à ça. C'est le premier qui saisit les ciseaux qui coupe. Merci encore pour tout, docteur. » Une fois dehors, le jeune inspecteur emplit ses poumons d'air frais et observa le morceau de papier qu'il tenait dans le creux de sa main. Un infirmier et un médecin. Il y avait de fortes probabilités pour que l'un de ces types soit le tueur. Quand il arriva chez lui, Charcot bouillonnait toujours, incapable de se calmer. Il tenta une recherche sur son Minitel, se cantonnant à Paris, sans succès. Soit les deux hommes étaient sur liste rouge, soit ils n'habitaient pas la capitale. Ce soir-là, après un coup de fil à Suzanne, il se coucha avec satisfaction. Il n'avait rien dévoilé à sa fiancée sur ses avancées, et il ne dirait rien à Serge non plus. Il irait d'abord au bout, seul. Quand il aurait une certitude, alors il livrerait à son équipe l'identité de l'assassin.